Rétrospective Catherine Deneuve, 50 films à la Cinémathèque française, ça commencera demain, le 8 mars, et ça durera jusqu'au 2 avril. Catherine Deneuve, première question très simple, est-ce que vous aimez bien ça? C'est-à-dire, est-ce qu'une rétrospective, qu'on remonte vos films, les gens de la Cinémathèque avec lesquels travaille Jean-François Roger, Serge Toubiana, Olivier Père, ont travaillé avec vous, vous avez participé
au... Travailler, moi, c'est beaucoup dire.
Enfin, vous avez un peu dit votre mot sur le choix
de...
Oui,
on a eu un rendez-vous, on a parlé de la liste
choix des films.
Du tout été embêtante.
Non, mais j'ai travaillé, franchement, c'est pas le nom, on a fait un choix, c'est tout.
Est-ce que vous aimez bien ça, l'idée de rétrospective? De regarder en arrière.
Moi, je regarderai pas vraiment en arrière, mais je suis assez contente que certains films soient projetés, des films qui passent peut-être pas trop souvent ou moins souvent, contrairement à tous ceux qui passent à la télévision. Par exemple, La Chamade, c'est un film qui repasse très souvent.
À la Cavalier,
souvent.
Ce soir, celui ça qui fera va, l'ouverture voilà, celui du cycle.
Oui, ouais. Oui, je pense pas que Lisa de Marco Ferreri non plus soit un film tellement qui repasse tellement souvent. Donc, cette idée-là me plaît. Le reste, ce qui est autour, disons le côté plus un petit peu plus lourd, un peu plus officiel et tout ça. Vous me connaissez, je veux dire, c'est pas évidemment ce que je préfère, mais ça fait partie de l'ensemble. Ça fait partie de...
Et est-ce que ça vous arrive en regardant la liste, hein, tout simplement, parce qu'évidemment vous pensez pas à vos propres films tous les jours, puisque vous
même
en
tournez beaucoup, d'ailleurs,
même pas beaucoup, vous en tournez beaucoup. Mais est-ce que ça vous arrive de vous dire, ah oui, quand même, j'en ai fait beaucoup, et ça encore, bon, chez les comédiens, c'est leur métier, mais surtout il y en a quand même beaucoup de bons.
Oui,
il y a aucune flatterie, hein, c'est pas ça.
Moi, je suis pas quelqu'un de prétentieux. Enfin, franchement, je crois pas. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la liste et quand on a vu les filles, je me suis dit, il y en a quand même pas mal qui resteront encore un bon moment, je pense. Oui, c'est assez agréable, oui. C'est assez agréable. Je pourrais pas dire comment c'est agréable, mais peut-être parce que ça donne une assurance de... C'est un métier très difficile et très volatile en même temps. Donc, l'idée de se dire qu'il y a des films qui vont rester, surtout même par rapport au film de Jacques Demy, vous voyez, ou de Buñuel qui ne sera jamais remplacé. Enfin, on ne remplace jamais personne, mais c'est un
et
modèle
surtout,
de metteur en scène qui ne peut plus exister vraiment
là,
aujourd'hui.
Ouais,
ouais. Donc, c'est assez agréable d'avoir participé, oui, à ça. Ouais.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait. Évidemment, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Vous avez souvent dit que c'était un peu le début de l'histoire pour vous.
Le début
de votre histoire. Ouais. Vous avez souvent dit, vous allez nous en parler, que Jacques Demy est le premier à vous avoir regardé. Donc
oui,
on écoute un extrait, c'est à la gare, il va partir pour la guerre, Les Parapluies de Cherbourg.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Je ne penserai qu'à
reste, ne pars pas, je t'en supplie. Reste mon amour, ce n'est pas encore l'heure.
Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas.
Quand on entend ça ou quand on le voit, mais pas à la radio, donc Les Parapluies de Cherbourg, première collaboration avec Jacques Demy, Catherine Deneuve. Pourquoi ça a été si important pour la vraiment toute jeune comédienne que vous étiez, que ce cinéaste vous regarde et puis surtout vous prenne pour faire partie de son imaginaire comme ça?
Parce que à l'époque, j'avais fait très peu de films et que j'étais pas sûre du tout de vouloir continuer à faire du cinéma, que j'étais très timide et que j'avais pas l'impression que c'était tout à fait mon élément. Et que J'ai fait un film qui s'appelait L'homme à femme avec Mel Ferrer et Daniel Darieux, dans lequel Jacques Demy m'a vu et m'a écrit qu'il voulait me rencontrer pour un projet de film qu'il avait. Il avait déjà fait Lola, il m'avait laissé un petit mot avec l'invitation pour un cocktail pour Lola en disant qu'il aimerait me rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, c'est vrai que j'ai eu l'impression de quelqu'un qui me regardait, comme l'héroïne qu'il voulait pour son film. J'avais pas encore lu le scénario, mais enfin la façon dont il en parlait, c'était quelque chose de plus enthousiasmant que ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Et la rencontre surtout alors de préparation du film, c'est-à-dire moi j'ai assisté à l'enregistrement des voix, l'enregistrement de la musique de Michel Legrand. C'est une aventure qui a commencé pour eux encore plus longtemps avant, mais pour moi quand même presque un an avant. D'ailleurs, entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où il a commencé à tourner le film, j'ai eu mon fils, donc ça a quand même pris un certain temps. Et ça a été un tournage absolument extraordinaire, qui était une chose éblouissante. Et aujourd'hui, avec le recul et étant donné tous les films que j'ai faits, ça reste quand même. Je me dis que c'est pas parce que c'était le premier film, c'était vraiment une chose assez magique comme tournage que je n'oublierai jamais.
Et vous êtes encore surprise aujourd'hui si vous revoyez le film ou même des extraits par son lyrisme et puis par son côté mais gonflé.
Mais alors, il en parlait tellement simplement, vous voyez, parce que quand même, ça a été à tourner, c'était très compliqué. Le film était entièrement enregistré, donc il fallait qu'il ait tous ces temps prévus à la. Sa mise en scène devait être totalement liée à la musique et il pouvait rien couper.
Oui, puisqu'il est exclusivement musical.
Oui, le film est entièrement chanté, donc entièrement musique, donc entièrement le tempo, tout est décidé à l'avance. Il fallait qu'il fasse sa mise en scène autour de ça. Mais il avait une façon de le présenter. Alors, évidemment, il y avait des choses assez compliquées à faire, mais moi, c'était mes débuts. J'étais tellement enthousiasmée par l'originalité de la chose que ça me paraissait difficile, mais ça me paraît pas, c'est pas impossible. Et surtout, il n'en faisait pas toute une montagne. Vous voyez, lui, il était, c'est une aventure comme ça. Et il était tellement précis, savait tellement ce qu'il faisait que on était quand même tous un peu portés.
Et c'était tellement original dans le cinéma français.
Ah oui.
C'était quelque chose en fait qu'il a complètement inventé. qui n'existait pas.
On parlait bon avec Paul Derek, mais la productrice extraordinaire de
Mac Bodard,
qui fait confiance et très soutenue par Pierre Lazareff. Donc
le film
se serait pas fait. Oui.
Pour la très petite histoire quand même.
Fait partie du mythe.
Oui, enfin, toute sa vie, c'est quand même beaucoup le cinéma. Hein, quand même. C'est une femme très passionnée, c'est quand même...
Oui, sans doute. Enfin, bon, Pierre Lazareff, c'est tellement quelqu'un de grand et c'est tellement une belle histoire.
Son mari aussi était pas mal.
Lucien Bodard.
Oui. C'est une femme qui a du caractère.
Voilà, bon, elle n'avait pas besoin d'avance sur recette pour faire ce film-là. Elle a eu une volonté.
Et de grandes difficultés. Hein. Je me souviens que ça a été quand même un tournage difficile. Mais un film où tout le monde était porté. Il y a des films comme ça où il y avait un tel enthousiasme devant l'originalité de la chose que tout le monde, même les techniciens, on n'avait pas de grue. On n'aurait pas les moyens d'avoir la grue. Ils ont inventé un espèce de truc avec des poids pour faire contrepoids de l'autre côté. C'était un souvenir la nuit en plus. C'était incroyable. Non, il y avait une volonté de faire le même film tous ensemble. Oui.
Et Catherine Deneuve, en regardant donc vos films, ce choix de film à la Cinémathèque française, mais on se dit, mais est-ce que, encore une fois, cette toute jeune comédienne, parce que l'âge compte quand même dans une vie, est-ce qu'elle se rendait bien compte de ce qu'elle faisait? C'est-à-dire qu'elle était vraiment cette, certes, fille mère, dans les parapluies de Cherbourg, puisqu'elle se retrouve enceinte.
Et dans la vie.
Et ça, dans la vie, ça, je ne le savais pas. Bon, mais vous étiez en même temps diaphane, enfin, tellement innocente dans le film de Jacques Demy, et ensuite, vous décidez d'aller tourner Répulsion avec Roman Polanski à Londres, où là c'est quand même tout autre chose. Est-ce qu'il y avait...
Ça pourrait être le même personnage quand même.
Ah bon, vous pensez?
Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, Roman a voulu tourner avec moi quand il a vu Les Parapluies de Cherbourg. Donc ça pourrait être une... Oui, ça pourrait être la continuité du personnage, oui. Une espèce de folie comme ça, de quelqu'un qui peut pas vivre seul et qui est trop fragile psychiquement, je trouve que c'est pas l'opposé, c'est une autre variante d'une jeune héroïne comme ça mais c'est une autre
variation.
Oui, c'est une variation, voilà, sur cette époque difficile comme ça où on n'est plus jeune fille, où on peut avoir eu un enfant et être fille mère. Et où on est comme ça entre deux eaux, on peut basculer d'un côté, de l'autre, Répulsion, elle bascule dans la solitude et la folie, mais ça aurait pu arriver au personnage des Parapluies.
Quel souvenir vous gardez du tournage de Répulsion avec Roman Polanski à Londres?
Très 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 étonnant, parce que Roman tournait pour la première fois à Londres, son scénariste c'était Gérard Brache, et donc nous étions les seuls à parler français sur le tournage, donc on était vraiment l'équipe comme ça resserrée, on parlait tout le temps français, on se voyait tout le temps le soir, c'était un tournage. C'est pas que les Anglais étaient hostiles, mais vous savez, les Anglais, c'est if you don't speak English, don't speak to them, c'était un peu ça. Donc Roman parlait anglais, mais c'était quand même pas sa langue. Gérard, pratiquement pas. Moi, Si je pense que mon rôle, le dialogue doit tenir sur 3-4 pages.
Oui. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on a essayé de prendre un extrait, on n'y est pas tellement arrivé parce que vous
à
dites
part
tellement
la scène,
peu de mots.
Oui, d'une manucure quand je dis est-ce que vous voulez du vernis, fire and ice, une chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, c'est presque un.
Mais je vous posais la question parce que, en plus des qualités, justement, sur l'imaginaire du film, on se dit là que ce jeune Roman Polanski a un imaginaire tellement intéressant. C'est aussi l'ambiance de l'époque et de la ville. C'est-à-dire que ce fameux Swinging London, mais là, je sais pas, on a l'impression d'y être. Enfin, il y a un climat, il y a un air du temps qui est très étonnant dans le film. Il a très bien capté les rues de Londres.
Ouais, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui était très très talentueux, qui est très doué, qui aime tout, qui sait tout faire, qui avait fait une école de cinéma, qui peut très bien faire la prise de son comme il peut faire les lumières. Il avait des idées sur tout par rapport au film. Et moi, je l'avais vu quand je tournais Les Parapluies. On avait été le voir. Il était en train de tourner le générique d'un sketch qu'il avait tourné, d'un film à sketch dans lequel il avait fait un, je sais plus comment ça s'appelait, les histoires. Enfin bref.
Dans l'eau, là.
Oui. Ah non, ça c'était
non, ça c'est un truc,
c'est le couteau dans l'eau, polonais. Ça c'est le court-métrage.
Non, c'est deux hommes et une armoire.
Ah, deux hommes et une armoire,
Thomas,
oui,
c'est un court-métrage polonais.
Non, là c'était
polonais.
Le générique d'un film à sketch
c'est
français.
C'est pas Robopag, un truc comme ça?
Non, enfin,
Jean-François
tous les cas,
Roger.
Oui.
Bon, si même Jean-François non. Roger sèche
et
alors là.
Il a fait un sketch, oui.
Ah oui, il a fait un sketch dans un film à sketch. Et il tournait dans un bateau, pas très loin, et nous un soir quelqu'un m'a dit on va aller les voir tourner, on a
les sept péchés capitaux.
C'est peut-être ça. Je suis pas sûr.
Bon, la plus grande escroquerie du monde.
Non plus.
C'est peut-être non. Il tournait selon la cale d'un bateau de nuit. On était le voir tourner et moi j'étais fascinée par l'énergie incroyable qu'il avait, la façon qu'il avait de se mêler de tout. Et c'est vrai que quand j'ai tourné Répulsion, moi j'avais pas fait beaucoup de films, donc être complètement dirigée, ça m'allait tout à fait. Et j'étais prête vraiment à le suivre et à parce que c'est un acteur aussi, donc il aime montrer, mimer.
On le voyait à Paris traîner au Pont Royal avec Brache. Bon, mais on sentait que sur ces on sentait que ce type, quand il est né, les fesses sont branchées, le génie est né. Et puis il est resté génie toute sa vie. Il y a quelque chose, une vitalité.
Oui, une vitalité, une curiosité, une énergie incroyable.
On va vous faire écouter un autre extrait, donc, dans ce, on peut dire, début de carrière. Hein, ce sont les premières années de votre carrière, Catherine Deneuve. Là aussi, c'est une rencontre capitale avec vraiment un des plus grands cinéastes du monde. C'était son retour en France. Hein, c'était Louise Buñuel. Vous allez reconnaître les clochettes du berceau. C'est le tout début du film, vous êtes avec Jean Sorel.
Veux-tu que je te dise inscrit, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage.
Moi aussi, Pierre. J'ai que toi au monde. Mais je...
Mais quoi? Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait. Que ta froideur disparaisse.
Ne me parle plus de ça, je te prie.
Mais je voulais pas te fâcher. Car tu sais, j'ai pour toi une immense tendresse.
À quoi peut-elle me servir ta tendresse?
Que tu peux être méchante avec moi quand tu veux.
Je te demande pardon, Pierre.
Arrêtez! Descends.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend?
Je te dis de descendre.
Mais pourquoi?
Allez, viens.
Mais laisse-moi!
Allez, viens!
Laisse-moi!
Viens!
Laisse-moi!
Et voilà comment on passe d'un roman photo qui a l'air mièvre à des choses beaucoup plus tordues. C'est en 1967. C'est Belle de jour d'après le roman assez mauvais d'ailleurs, dit-on, je l'ai jamais lu, de Kessel. Donc Belle de jour, le film de... J'ai dit-on, Pascal. C'est vrai, t'es pas d'accord? Bon, très bien. Et donc c'est Catherine Deneuve et Jean Sorel dans ce berceau, landau tiré par des chevaux. Ça, c'est quel souvenir, Catherine Deneuve?
Le tournage?
Ouais, Belle de jour.
Difficile.
Pourquoi c'était si difficile, hein?
Mais parce que c'était des producteurs indépendants qui protégeaient beaucoup Buñuel et qui formaient une équipe très solitaire par rapport à l'équipe du film, que je me sentais un peu exclue de l'histoire du film. Et que c'était un personnage difficile, j'avais pas toujours le contact avec Buñuel qui m'aurait permis de me sentir, enfin, qui m'aurait rassuré ou qui m'aurait donné envie de, donc je me sentais utilisée un peu, je me sentais pas vraiment.
Un peu utilisée, un peu manipulée, un peu seule aussi, peut-être, tout simplement.
Un peu seule, et puis c'est vrai que bon, Buñuel, moi j'étais assez jeune à l'époque, lui était déjà un homme d'un certain âge, je me sentais pas, vraiment tout à fait, sur le même, donc je n'osais pas.
Le personnage est silencieux aussi, donc est-ce que...
Non, c'est pas que le personnage était silencieux, c'est que le personnage était difficile et que je n'avais pas et que Buñuel ne dirige pas beaucoup les acteurs. Donc c'est un monsieur assez assez fermé comme ça. Je pense pas que le tournage était la partie, la chose qui l'intéressait le plus par rapport au film. Je pense que l'écriture et l'idée de réaliser le film était plus importante que le tournage lui-même. Il fallait en passer par là puisqu'il fallait le mettre en image, mais c'est pas l'étape la plus intéressante, je crois, pour lui.
Mais qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous dirigeait sur des gestes, sur quelques indications comme ça, spatiales?
Oui, avec cette voix qu'il avait comme ça, un peu bourrue, un peu saccadée, parce que quand même, le français, il le parle bien, mais ça lui demande quand même un effort, donc on ne demande pas trop de détails ou d'explications, et qu'il n'y avait pas tellement de manières de... On faisait pas de manière. Donc, il disait les choses, on faisait ce qu'il disait, et puis voilà, il vous disait d'une façon un peu brutale si ça allait ou si ça n'allait pas. Et donc, c'était pas un rapport très 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 chaleureux.
Mais c'est vraiment une très belle histoire de cinéma, Catherine Deneuve, parce qu'aujourd'hui, Belle de jour est devenue vraiment un classique, et en plus un peu dans le monde entier. Hein, je crois qu'aux États-Unis.
Oui, d'accord. Mais moi, c'est pas mon plus beau souvenir de tournage avec lui. J'ai eu une relation beaucoup plus intéressante sur Tristana.
Ah oui. Oui. Mais c'est à ça que je voulais en venir, c'est comment vous en êtes arrivés tous les deux là, parce que donc vous êtes en train de nous dire que sur Belle de jour vous n'étiez pas très heureuse, et Jean-Claude Carrière, le scénariste du film, raconte, c'est sûrement le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, il dit pendant le tournage, ben Buñuel la trouvait pas très bonne, enfin il avait des doutes.
Oui, et quand je peux comprendre, voilà, je devais, peut-être que inconsciemment je devais le sentir, vous
et
voyez.
Et quand il a fait son premier bout à bout, son premier montage, c'est Carrière qui raconte ça, il dit mais il a été mais époustouflé. C'est-à-dire que même lui, ce grand cinéaste, ne s'était pas rendu compte et il en est parvenu.
Je vais vous dire, je crois que Buñuel n'aimait pas tellement les acteurs. Et je peux le comprendre, ça l'emmerdait un peu. Avoir donné des explications, alors qu'il y a à dire, allez, vous faites ça, vous avez le texte, vous le connaissez, vous faites ce que je vous dis. Donc, j'ai compris un peu mieux après, si vous voulez, quand j'ai fait Tristana, parce que j'ai quand même accepté de faire Tristana.
Pourquoi vous avez accepté, du coup, quand c'est un mauvais goût?
Parce que le film était quand même, si vous voulez, au résultat, une chose qui me plaisait beaucoup. Et parce que il s'est passé des choses entre temps, que j'ai quand même appris des choses, peut-être, parce que j'ai aimé le résultat du film et qu'on a les mémoires courtes dans ces cas-là, quand on est acteur, en tous les cas, même si on n'a pas un très bon souvenir du tournage, mais qu'on a aimé, qu'on aime le résultat, et que j'ai aimé beaucoup en plus, le scénario de Tristana était absolument magnifique.
Parce que Tristana, c'est vraiment un film confession. C'est-à-dire que c'est Buñuel en vieil homme, par l'intermédiaire d'un de ses acteurs doubles, Fernand Doré, qui vraiment se raconte. C'est un film d'une extrême intimité, Tristana. Donc, qui vous demande de jouer dans ce film-là, c'était quand même aussi un sacré signe de confiance et d'affection.
Je sais pas si c'est, on peut aller jusque-là, parler de confiance et d'affection. Vous savez, je crois que, oui, voilà, on lui propose ça, ça peut être marché. Oui, elle est le personnage, elle peut le faire. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui, comme d'autres metteurs en scène, va vraiment, se pencher sur la chose, réfléchir vraiment. Oui, je pouvais aller, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, en tous les cas, pendant le tournage, ça s'est très bien passé. Et il faut dire qu'il était aussi très heureux de retourner en Espagne.
C'est à Tolède.
C'est la première fois qu'il retournait en Espagne depuis Viridiana. Et c'est un film, un sujet qu'il avait toujours voulu adapter au cinéma. C'est un grand classique espagnol.
On va vous retrouver, Catherine Deneuve, ou plutôt, non, on va pas tout à fait vous retrouver. C'est-à-dire qu'on va entendre quelqu'un parler de vous. C'est une scène devant un feu de bois. Ça arrive dans le cinéma français. C'est La Sirène du Mississippi. Oui. C'est un très beau texte. Et c'est Jean-Paul Belmondo qui parle de votre beauté, de votre visage.
Je vais t'expliquer. Attends. Je t'attends. Je vais plus te parler de ta beauté. Je vais même te dire que t'es moche, si tu veux. J'essaie de te décrire comme si tu étais une photo ou une peinture. Tais-toi. Ton visage est un paysage. Tu vois, je suis neutre et impartial. Et les deux yeux, deux petits lacs marrons.
Marron vert.
Deux petits lacs marron vert. Ton front, c'est une plaine. Ton nez, petite montagne, petite. Ta bouche, un volcan. Ouvre un peu, j'aime voir tes dents. Non, pas trop. Voilà, comme ça.
La Sirène du Mississippi, François Truffaut, votre première collaboration avec lui, Catherine Deneuve. C'est bizarre, ce film n'a pas tellement marché à l'époque. Ça a plutôt été un relatif, je crois, échec commercial. Hein.
Oui. La raison, c'est difficile d'expliquer. Une des explications avancées, c'est que les gens n'ont pas accepté de voir Belmondo dans un rôle de vaincu sentimental d'un homme qui souffre à cause d'une femme et qu'il avait une image d'un héros très, très fort, très masculin, très viril comme
on
ça.
On était loin de l'homme de Rio.
Oui. Mais bon, L'Homme de Rio encore, c'était une comédie, mais il a fait quand même beaucoup de films où il représente comme ça une image de la force masculine très grande, et puis sans doute d'autres raisons. Je pense que le film est, est dérangeant de voir un homme comme ça descendre aussi bas pour une femme. Oui. Non, le film a une image, avec le temps, a une image beaucoup plus positive.
L'homme, c'est l'image de l'homme s'est transformée.
Comment ?
L'image de l'homme s'est transformée.
Oui, l'image de l'homme s'est transformée, sans doute, et le regard sur le film, la façon de... Oui. C'est-à-dire qu'avec le temps, les acteurs ont une autre s'ajoutent quand même, même quand on regarde un film ancien, s'ajoutent quand même toutes les images qui se sont superposées après des autres films sur un film que l'on regarde encore à nouveau. J'avais rencontré Pascal Thomas sur ce film.
Ouais, non, mais non, j'étais vous voir à la réunion,
oui.
Je connaissais avant.
Oui, oui. Oui, oui, mais je veux dire, je me souviens très bien de son arrivée. Je me souviens très très bien.
À l'île de la Réunion.
Ouais.
Il était quoi, un jeune journaliste?
Ouais, pour Candide.
Oui, c'est ça.
Ah, mais voilà.
Belmondo disait, il était conscient du rôle, il était un peu embarrassé de, il avait une conversation, il dit, mais j'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'un con. Mais on a l'air d'un type normal.
Il
avait ce sentiment-là, non?
Il était un peu mal à l'aise, oui. Un peu mal à l'aise. Enfin, moi, c'est un film que j'aime énormément. Je trouve que c'est un film incroyablement osé. Oui,
très gonflé.
Mais justement, Catherine Deneuve, on a aussi envie de vous poser cette question quand il y a une rétrospective comme ça. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit que non seulement c'était parti, mais que voilà, vous aviez déjà derrière vous un certain nombre de films?
Non, jamais. Ça, franchement, jamais. Jamais. Puis vu les questions qu'on se pose toujours au présent par rapport aux films qu'on veut faire ou ceux qu'on est en train de faire ou qu'on va faire, il y a toujours cette interrogation. On peut jamais... Enfin, moi, je me suis jamais reculée comme ça au fond de mon fauteuil en me disant... Non, c'est plutôt quand je lis comme ça, sur une liste comme ça, où je vois des photos anciennes ou un extrait de film, parce que j'ai tous mes films et je ne les regarde pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de voir déjà tous les nouveaux films, donc j'ai pas le temps de voir mes films.
Et vous allez
quand je vois des
cinéma.
Images... Et je vais pas mal au cinéma, oui. Alors, quand je vois des images comme ça, des extraits, je suis tombée sur un extrait de Peau d'âne l'autre soir. C'est vrai que je suis restée 5-6 minutes à regarder cette scène avec Jacques Perrin, que je trouvais absolument délicieuse. Mais bon, j'ai pas regardé tout le film. Mais sinon, non, je suis pas du tout, et c'est pas du tout par modestie, parce que je suis pas particulièrement modeste. C'est pas ça, c'est autre chose. Je pense que c'est arrivé. Je pense que j'ai eu quand même j'ai eu beaucoup d'opportunités que je n'ai pas laissé passer. Je crois que c'est ça aussi un peu la vie, c'est les rencontres, la curiosité qui fait qu'on va avoir envie de parler avec quelqu'un et que on va se donner envie comme ça. Vous voyez, une rencontre qui se fait des fois d'une façon fortuite, qui est pas liée forcément avec des films. C'est
mais
voilà.
Que justement, parfois, c'est vous qui avez sollicité des metteurs en scène. Est-ce que vous avez fait le premier pas?
Non, la seule fois où j'ai écrit un metteur en scène, il en a beaucoup usé et abusé. C'est Lars von Trier, à qui j'avais écrit pour tout à fait autre chose d'ailleurs, pour lui parler de ce film qui m'avait beaucoup bouleversé, qui était Breaking the Waves. Et parce qu'il avait un projet à l'époque, j'avais entendu dire qu'il allait tourner sur plusieurs années en Europe. Et je lui avais dit, si vous venez en France, je sais que vous voyagez pas beaucoup. Mais alors, il m'avait dit qu'il avait abandonné ce projet, mais qu'en revanche, il préparait une comédie musicale avec Björk, qui avait un rôle d'une femme qui était écrite pour une noire américaine, qui pourrait très bien transformer pour une blanche française. Donc j'ai été le voir au Danemark. Mais enfin, il est très malin, lui. C'est un homme très malin.
Et donc, vous avez fait Dancer in the Dark, quand même.
Oui, j'ai fait Dancer in the Dark.
Mais si vous avez l'air d'en parler, c'est pas un bon souvenir? C'est pas un film que vous aimez beaucoup?
C'est un souvenir très particulier, très gonflé. C'était très intéressant en tant que souvenir à tourner. J'ai pas eu quand même des choses extraordinaires à faire. C'est l'aventure qui était intéressante, la façon dont ça s'est passé. Mais je peux pas dire franchement que j'avais dans Dancer in the Dark un rôle si intéressant que ça. Je peux pas dire que ça a été... Non, mais je suis très contente de l'avoir fait, très contente d'avoir rencontré Björk, qui est vraiment un personnage extraordinaire. Mais c'est pas mon aventure cinématographique.
La plus marquante, c'est la
non, on m'en parle toujours comme si vraiment j'avais fait un truc pour pas exagérer. J'ai quand même pas fait, c'est pas moi qui joue le rôle de Björk, donc c'est quand même, c'était très intéressant de participer à cette aventure.
Sandra Freeman.
Non, juste globalement, vous avez plus l'impression dans votre vie d'avoir été choisi que d'avoir choisi?
Je pense que de toute façon, en général, les acteurs sont plutôt choisis qu'ils ne choisissent, oui. D'abord parce que, bien sûr, qu'il y a toujours des acteurs qui peuvent initier des projets, mais moi, j'appartiens à cette catégorie d'acteurs qui aiment beaucoup travailler avec des auteurs. Donc, les auteurs, c'est difficile quand même d'aller vers eux et de leur proposer un sujet. Donc, c'est très difficile d'initier des choses dans ces cas-là. Mais je pense
aujourd'hui, c'est peut-être plus facile qu'à vos débuts.
Mais c'est pas une question de facilité, ça dépend avec qui on a envie de travailler. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui écrivent, donc en général, il faut que ça vienne d'eux aussi. J'ai peut-être plus de courage pour demander ou parler de certaines choses à des gens, mais Pas tant que ça, finalement. Et puis, de toute façon, les acteurs dépendent beaucoup des auteurs et des metteurs en scène.
Alors, justement, Catherine Deneuve, on va terminer cette émission, enfin, en tout cas, le dernier extrait d'un de vos derniers auteurs en date. Et d'ailleurs, je crois même que vous êtes Arnaud Desplechin. Vous êtes
en train de
en train de tourner, donc, votre second film avec lui. J'ai même lu quelque part que c'était le centième. Donc, ça
tombe. C'est vrai?
Oui. Bah, écoutez, j'ai lu ça quelque part.
C'est très possible.
Le centième de vos films. Et puis, il y a quelque chose qui devient, évidemment, touchant, si on vous aime bien et puis si on aime bien le cinéma, c'est qu'un cinéaste qui a 40-45 ans comme Desplechin, évidemment, lui, il vous a vu chez Truffaut, chez Buñuel, chez Ferreri, chez Demy, et donc il intègre tout ça, on sent qu'il s'en sert dans son écriture, et donc on va vous faire écouter un extrait de Rois et Reines avec Mathieu Amalric. Lui, il joue un patient pas très facile, et vous êtes sa psy, et vous acceptez de le faire sortir de votre hôpital.
Et vous avez des projets qui vous attendent dehors ?
Non, il faut que je retrouve mon quatuor, il y aura bien des enregistrements.
J'aimerais pas vous lâcher dans le vide. Tenez.
Vous savez ce qu'il y a dedans ?
Bah oui, puisque je l'ai co-signé.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous devez l'ouvrir tout seul, ça fait partie de la cure.
Alors je préfère l'ouvrir dehors, tout à l'heure.
Moi aussi, avant, j'étais comme vous, je prenais un malin plaisir à ne rien comprendre aux paperasses, aux règlements, aux questions d'argent. Puis un jour, il a fallu que je m'y mette. C'est pas si difficile. Vous devriez ouvrir l'enveloppe.
Mais je peux sortir ?
Oui, vous êtes libre.
Comment, là, maintenant ?
Oui, là, maintenant. Allez débarrasser votre chambre, ce sera fait.
On vous a déjà dit que vous étiez très très jolie.
Oui, ça j'ai entendu souvent, merci.
Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Rois et Reines, le film d'Arnaud Desplechin. Ça vous fait rire, non?
Ça me fait rire, mais les scénarios d'Arnaud Desplechin me font rire. Enfin, Rois et Reines est très cruel. Celui que nous faisons dans Un conte de Noël, où Mathieu Amalric joue mon fils dans le film, est très, très drôle et très cruel aussi.
Et quand il vous dit, on vous a déjà souvent dit que vous étiez très très jolie.
En général, je réponds pas comme je réponds dans le film, hein, quand même. On est plus embarrassé que ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Je suis un peu embarrassée, je dis non, c'est gentil. Je dis c'est gentil, merci, parce que c'est vrai que je trouve ça toujours gentil de faire un compliment.
C'est bien la réplique qu'il vous a écrite quand même.
Oui, ça va bien au cinéma, mais
beaucoup entendu, c'est
enfin,
bien,
dans la vie, ça paraîtrait vraiment très...
Je pense que tu es très modeste.
Non, pas si modeste que ça, quand même.
Il y a une distance ironique constante. Depuis le temps, je sais. Mais il y a une distance ironique constante sur les choses, les gens, les trucs.
Moi, j'ai une famille nombreuse, mes sœurs étaient jolies, on parlait de choses, ma mère dit, on parle pas du physique.
Je suis d'accord. Pascal, oui. Mais tant que vous avez oublié de vous prendre trop au sérieux. Voilà.
Ah mais ça, je me prendrai jamais au sérieux, voilà. J'espère.
Mais ça explique aussi pourquoi vous avez fait autant de choses intéressantes.
Moi, je crois.
Oui, peut-être.
Bon, ben, je suis d'accord avec moi-même et avec Pascal Thomas. Merci infiniment, Catherine Deneuve, de nous avoir rendu visite. C'est à la Cinémathèque française jusqu'au 2 avril. Hervé Pochon, tout de suite.
Alors, eh bien, écoutez, on va tout de suite au Salon de l'Agriculture. Je suis désolé de passer de la filmographie,
cette transition.
La Cinémathèque.
Moi, ça me va très bien. Je suis tout à fait pour.
Ah, merci, Catherine.
C'est la seule médaille que j'ai.
Allez. Ah, eh bien, justement, alors, j'étais là dans ce Salon de l'Agriculture et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait intéresser Catherine Deneuve là-dedans? Et je me doutais qu'il y avait plein de trucs. Mais là, j'ai vu quelqu'un qui me suis dit quand même, je pensais pas à le voir ici.
Je suis Salima Roquigneda et je suis en train de coudre des sacs à main.
Et vous venez ici pour vous fournir en cuir avec les vaches ?
Non, pas du tout. Je viens pour, je dirais, rendre hommage justement à nos amis les vaches et pour montrer la totalité de la filière de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'en fait au produit fini, la transformation d'une peau brute en cuir et en produit fini.
Alors, Jérôme est prothésiste dentaire de formation, mais il a bénéficié en 98 d'une formation de scellé maroquinier lors d'une période de chômage. Et en 2004, il est devenu meilleur ouvrier de France, s'il vous plaît. Alors Catherine Deneuve, évidemment, se demande, mais combien fait-on de sacs à main avec une vache ?
Ou avec une vache, on peut faire beaucoup de sacs à main. Une vache, en moyenne, fait à peu près 3 mètres carrés de cuir. Donc, on peut faire beaucoup de sacs à main, je vous dirais, pas loin de 6 à 7 modèles, en fonction de la technicité de chacun d'eux.
Quel est le meilleur cuir pour vous ? La meilleure vache ?
Ah, c'est le cuir de veau. Indiscutablement, c'est la meilleure qualité, la texture, la densité des fibres, la parfaite composition et en général l'état irréprochable.
Ça coûte combien un sac à main que vous faites ?
un sac à main en sortie d'école à un prix tout à fait raisonnable, à peu près une centaine d'euros. Mais les stagiaires sont amenés à faire des sacs à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Alors je suis désolé, j'avais pas ma carte bleue sur moi, sinon Catherine, je vous aurais acheté le sac à 25 000 euros. C'est celui qui me plaisait. Mais bon, voilà, je travaille à France Inter, je suis désolé. Hein. Et là, la campagne présidentielle n'est jamais loin au Salon de l'Agriculture.
Si un homme ne comprend pas les cochons, qu'il renonce d'office à la présidence de la République. Signé Harry Truman, président des USA, 1945-1953. Il y a 5 ans, je l'ai donné en main propre au président Chirac. Il l'a pris, il l'a mis dans sa poche, il l'a bien rigolé.
Ah oui.
Et de la tête à la queue, le porc est toujours délicieux. C'est comme nous.
C'est un cochon blanc, blanc à taches noires. Le cochon de Bayeux, venez tous le voir. Dans tout le pays, il n'y a pas plus fameux. Notre préféré, c'est le cochon de Bayeux.
Bon voilà, je suis en train de répéter cette petite comédie musicale, Catherine, mais dès que c'est au point, je vous contacte et on va faire le cochon de Bayeux.
Oui, je suis partante. Hein.
Merci Catherine. Demain, le dernier épisode au Salon de l'Agriculture.
Merci beaucoup Hervé Pochon. Merci beaucoup Catherine. Donc vous avez le prix du mérite agricole, c'est
oui,
ça?
Oui.
Médaille donc.
Oui, c'est la seule.
Et vous élevez des cochons?
Moi, je n'élève pas des cochons. J'ai 2 petits cochons que j'aime beaucoup.
Ils s'appellent comment?
Mes petits-enfants sont en train de les rebaptiser parce que c'est un nouveau couple que j'aime. Des petits cochons vietnamiens.
Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On se retrouve à la Cinémathèque. C'est jusqu'au premier jour d'avril. Et nous, on se retrouve demain.